Salut et bienvenue sur The Fit & Coach, le podcast. Moi c'est Seb et ici on va parler de sciences de l'entraînement, de nutrition, mais aussi d'état d'esprit et d'optimisation de son mode de vie au quotidien. On va parler d'habitudes et de process pour t'aider à performer dans ton domaine et on va également aborder l'approche d'un coaching, d'un suivi autour des métiers artistiques et puis de tout ce qui en découle. Je te souhaite tout de suite une bonne écoute. C'est parti. Salut à tous et heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Marius. Marius, c'est un collègue coach sportif, coach bayésien qui a passé la même formation que moi. Salut Marius, comment tu vas ?
Salut Seb, merci pour ton invitation.
Bah écoute, de rien. Et ça me paraissait en fait tout à fait normal que tu sois avec moi pour faire ce podcast parce qu'en fait, comme on l'a vu dans le titre, on va parler de la récupération active. Et en fait, il se trouve que la semaine dernière, j'ai fait un live Instagram et Marius était avec moi sur ce live. Et il y a eu une personne qui nous a posé certaines questions et notamment une question qui nous a tous les deux interpellés parce qu'on en a parlé pendant quelques temps. Et en fait, c'était une personne qui a été blessée ou qui a eu des problèmes, des traumatismes et qui avait besoin, une envie de refaire du sport. Mais qui du coup hésitait parce qu'on lui a dit de s'arrêter, etc. Et qu'on lui a expliqué qu'il y avait un phénomène de récupération dite active. Donc le fait de s'entraîner pouvait activer un petit peu tout ça. Donc ça nous a donné l'idée de faire ce podcast. C'est pour ça qu'il est avec moi aujourd'hui. Du coup, Marius, qu'est-ce que t'en penses toi de la récupération active ? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ça ?
Ouais, pas de souci. Alors du coup, on va peut-être déjà essayer de définir ce que c'est tout simplement.
Ouais, carrément.
En fait, donc la récupération active, c'est un processus qui permet d'accélérer la récupération suite à une blessure, un traumatisme, etc. Et ça se fait par le biais donc, de la pratique d'une activité physique, mais pas n'importe comment. Et le but de cette pratique, c'est tout simplement de permettre un afflux sanguin plus important que dans un état sédentaire, et ouais. Par conséquent, un meilleur apport en nutriments sur la zone qui a subi le traumatisme et qui a besoin de récupération.
Ouais, clairement. Clairement, ça va activer le système immunitaire, ça va vraiment tout relancer, la machine va se mettre en marche tout simplement. Et du coup, au lieu de rester sédentaire, comme tu dis, affalé sur son canapé, à ne rien faire du tout, et qu'on va dire qu'on va récupérer à ce moment-là, c'est vrai qu'en fait, d'être actif tout simplement, et aller peut-être un petit peu plus loin, ça peut être vraiment très très intéressant en fait.
Ah bah complètement. C'est justement le but de ça. Parce que je sais pas, j'imagine que t'as déjà été blessé dans ta vie.
Ouais.
Par exemple, quand tu étais enfant, tu avais une petite blessure, que le médecin il te disait de t'arrêter, les 2, 3, 4 semaines d'arrêt, c'était toujours dur de remobiliser l'articulation ou le muscle en question, alors que finalement, avec une récupération active comme on vient de le définir, en fait, on n'a pas ce phénomène-là.
Ouais, c'est vrai, c'est un super exemple ça. C'est vrai que quand on est enfant et qu'on est blessé et qu'on fait rien, c'est même bizarre parce que même enfant, on est encore plus actif que maintenant. Enfin, en globalité, hein, franchement, je fais des grosses généralités, mais c'est vrai que ça peut. On est beaucoup plus actif et si jamais on fait vraiment rien, c'est vrai que quand on reprend tout de suite, ça fait une énorme différence. Mais du coup, toi, ça t'est arrivé, t'as eu des phénomènes, justement, comme tu viens de me dire, des blessures, mais plutôt récentes, on va dire. En gros, que t'as appliqué ce phénomène de récupération active, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi ?
Alors oui, ça m'est arrivé il y a environ un petit peu plus d'un an, quand j'étais encore dans l'armée, donc je me suis blessé, je me suis fait une entorse à la cheville,
okay.
et tout simplement j'ai appliqué ce principe de récupération active, donc que ce soit directement sur la cheville en question, par quelques pas de marche, un petit peu de mobilisation de l'articulation, ou tout simplement par la pratique de la musculation sur le haut du corps, parce que le bas était plutôt en incapacité de travailler, mais je pouvais toujours néanmoins faire un peu d'épaule, un peu de pec et ainsi de suite, et du coup activer mon afflux sanguin de cette manière-là.
D'accord. Mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, toi, donc, t'as fait de l'armée, je veux dire. Donc, c'était un phénomène, juste pour revenir un petit peu dans le contexte au niveau de cette blessure-là que tu viens de donner un exemple. Ouais. C'est quoi? T'as eu un truc, du coup, tu t'es blessé, mais justement, t'as dû continuer forcément, j'imagine, parce que t'as dû.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que là, donc, j'ai continué ma mission, mais je pouvais l'adapter pour ne pas avoir besoin de ma cheville. Parce que c'était une mission essentiellement de commandement et de surveillance.
D'accord.
Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais...
Non, non, mais c'est intéressant.
Je pouvais me permettre de rester plus ou moins assis un bon moment dans la journée et continuer de commander mes gars à ce moment-là. Donc, j'ai pu adapter mon emploi du temps et ma manière de vivre pour tout en continuant ma mission. Je n'ai pas eu spécialement d'arrêt.
Ok, du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu un... Voilà, quelque chose qui t'a blessé, tu as eu des difficultés. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as eu du temps entre le temps où tu t'es blessé et le temps où tu as fait ta récupération active, ou c'était au même moment. Enfin, genre, parce que je peux imaginer, par exemple, moi, pour un exemple, j'ai eu pas mal de soucis à l'épaule et j'ai très vite appliqué la récupération active dès la semaine d'après, où je me suis mis, du coup, à faire attention, etc., etc. Donc, toi, c'était un petit peu plus long, finalement.
Non, même pas. Même pas, parce que finalement j'ai adapté donc juste la partie de mon travail que j'ai modifié pour ne pas mobiliser ma cheville. Par contre, dans le reste de ce que je faisais, je me suis toujours débrouillé à la mobiliser, mais de manière la plus intelligente possible.
D'accord.
J'ai pas eu de phase de sédentarité complète.
Ok, d'accord.
J'en ai eu aucune. Voilà. Je me suis toujours débrouillé, par exemple, pour ne pas prendre de béquilles. De continuer de marcher,
ouais.
Très peu, mais de marcher quand même.
Ça, c'est une bonne idée. C'est un bon exemple sur le niveau des béquilles, parce que c'est vrai que je trouve que ce n'est pas forcément la bonne chose.
Et après, on y reviendra un peu après, peut-être. Voilà, oui, ça dépend aussi de la gravité. Mais moi, là, pour ce cas en question, je pouvais le faire. Donc, je l'ai fait. Tout simplement, voilà, faire quelques petites flexions un peu de la cheville, et même sans forcément avoir le pied par terre, en étant assis. Mais tout simplement, voilà, pour mobiliser un petit peu l'articulation et ne pas la laisser figer.
D'accord.
Et puis,
okay.
Voilà, comme je t'ai expliqué, la pratique de la musculation sur le haut du corps qui me permettait de continuer d'avoir une activité réellement physique, là, un sport,
ouais.
Juste en étant sélectif sur les exercices.
Complètement, ouais. Et d'ailleurs, du coup, qu'est-ce que tu as vraiment appliqué, si on peut rentrer un petit peu plus dans le détail, au niveau de la musculation, de la récupération active vraiment en musculation?
Alors, en musculation, tout simplement, j'ai un entraînement qui est essentiellement axé sur des core lifts. Et du coup, je les ai tous enlevés.
D'accord. Tu nous rappelles, ce que c'est les core lifts pour les gens?
Alors,
qui...
Alors, un core lift, en fait, c'est un exercice polyarticulaire qui va nécessiter un très fort gainage, et donc souvent la position, elle est debout au sol. Donc ça va être, par exemple, l'overhead press où on est debout, le développé couché l'est aussi parce qu'on a les pieds au sol, le squat, voilà, le soulevé de terre, ce genre d'exercice.
Ça,
voilà, exactement.
Les gros polyarticulaires de base, quoi.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, malgré du coup, la présence de ces exercices dans ma routine, donc je les ai enlevés. Par exemple, le développé couché, donc j'ai 10 lots de la charge et je le faisais avec sans appui au sol,
ouais,
tout simplement. Donc ça nécessite beaucoup plus d'équilibre sur le banc, mais en réduisant intelligemment la charge, ça se fait très bien. De toute façon, c'est une phase où on est bien d'accord qu'on ne va pas chercher à progresser. C'est justement de la récupération active. Donc le but du jeu n'est pas de construire du muscle. Le but du jeu, ça va être de garder ce qu'on a au mieux, et de favoriser la récupération de la zone qui a été traumatisée.
Clairement.
Donc, c'était un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai travaillé un peu plus sur machine. J'ajustais un petit peu les mises en place sur certains exercices pour ne pas avoir à mettre de tension sur la cheville qui avait été traumatisée.
D'accord. Et au niveau de ton échauffement, est-ce que tu as quand même sollicité un petit peu la cheville pour quand même la faire travailler? Comme tu disais, par exemple, au lieu d'utiliser les béquilles, tu t'es mis à marcher. Donc c'est en dehors de la phase de musculation. C'est plutôt dans tous les jours, etc. Mais du coup, est-ce qu'en musculation, tu as quand même... Enfin, en musculation, je veux dire plutôt en phase d'entraînement, est-ce que tu as été un petit peu plus loin, notamment peut-être avec des élastiques ou en étant un petit peu debout, faire un peu d'équilibre, travailler les gainages du coup de la cheville, entre guillemets? Est-ce que t'as fait un peu ça du coup?
Alors ça, je l'ai fait, mais plus tard.
Quand t'étais plus serein.
Voilà, quand j'étais un petit peu plus serein, quand je voyais que la douleur commençait à partir. Et donc j'ai fait un petit peu de travail avec élastique. Avec poulie aussi, parce que j'avais pas beaucoup d'élastique, enfin, du moins ça dépendait de l'endroit où j'étais.
Ouais.
Mais en mettant une tension avec une poulie et genre par exemple la première plaque, on retrouve à peu près la tension que peut donner un élastique.
Oui, oui c'est
et,
vrai.
Ou tout simplement, j'appliquais un petit peu de flexion sur la cheville à l'image de ce que peut faire un kiné par exemple. Bon, c'était pas ma première entorse, donc j'ai vu un petit peu comment les kinés travaillaient dessus.
Yes.
Et j'ai repris un petit peu ce genre de choses ou tout simplement de la proprioception.
Exactement, ouais, super. Bah, c'est vraiment un super exemple parce que, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut être créatif, il ne faut pas s'arrêter dans l'idée. C'est que ce n'est pas parce qu'on est blessé à un endroit qu'il faut, du coup, ne plus rien faire et être sédentaire et avoir que du repos. Le repos sera très important, il sera même capital. Mais d'ailleurs, le repos est même capital dans une phase non blessée, en fait, tout simplement. Ça serait voilà, peut-être l'objet d'un autre podcast carrément, de parler un petit peu plus du sommeil et du repos. Mais là, on parle vraiment de récupération active. Donc, quand on a un trauma ou qu'on est un petit peu blessé, une petite gêne, en fait. Et c'est vrai que le fait de s'entraîner, alors pas forcément sur la blessure en elle-même, comme tu disais, comme tu as pu faire, par exemple, faire du développé couché alors que tu as mal à la cheville. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème, mais c'est que tu as continué à t'entraîner à des charges réduites pour pas solliciter la cheville trop. Mais comme tu dis, voilà, t'as fait marcher la machine, tout simplement. Tu as mis de la flux sanguin dans ton corps, le système immunitaire s'est mis en marche, etc. Etc, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on dit et c'est vrai que finalement si on en fait peu en fait ça, on va pas guérir plus vite mais par contre trop, si on en fait trop on risque d'aggraver la blessure. Donc c'est vraiment de faire attention, comme t'as dit s'écouter, c'est pas tout de suite travailler sur la cheville en question pour garder ton exemple mais t'as vraiment pris le temps de sentir que t'étais un petit peu plus apte à retravailler dessus puis après t'es passé à des machines comme bah, la poulie donc du coup qui va amener beaucoup de résistance ou avec un élastique ou à peu près similaire à l'élastique donc du coup ça sera vraiment intéressant mais voilà tu t'es écouté, t'as fait attention parce que si t'avais peut-être été directement dessus t'aurais pu aggraver la blessure en fait.
Ah mais complètement, si j'avais repris un exercice comme le squat avec une entorse de cheville, ouais. Je suis pas certain que j'aurais repris la course à pied rapidement derrière.
Ah ouais, non,
ça
clairement.
M'étonnerait.
Enfin,
c'est un exemple parmi tant d'autres, mais
il y a
énormément d'exercices où tout simplement reprendre la course à pied et mettre des traumas répétitifs dessus.
Ah ouais, bah là c'est vraiment le truc à pas faire avec les chevilles, hein, de recourir voilà. Direct.
Ce serait le mauvais exemple à suivre.
Ouais, voilà, exactement, très très bon exemple. En gros, t'as avec la cheville, c'est plutôt se remettre à marcher tranquille, mais vraiment tranquille. Et au lieu de courir direct et se dire bah ça y est je vais y aller à fond, voilà, c'est pas ce qu'on dit. On dit pas de récupérer activement en allant vraiment violemment travailler l'endroit en question, donc notamment ne pas courir pour cet exemple-là voilà. En tout cas.
Il y a un juste milieu à trouver et on peut même y ajouter une notion de progression en fonction de l'évolution de la récupération de la blessure, donc on va dire la période de soins. On va pouvoir progresser sur les différentes choses qu'on va appliquer, les différents exercices ou tensions qu'on va pouvoir appliquer sur le membre ou la zone traumatisée.
Exactement. Ça permet aussi de retravailler la technique, en fait. Parce qu'il se trouve que, par exemple, moi, pour un exemple avec moi, donc moi j'ai eu des petits soucis à l'épaule dû à l'escalade, donc à des mouvements très explosifs et des moments où on peut être un petit peu mal placé, etc. Donc avoir des grosses tensions à l'épaule et notamment, par exemple, le développé couché pour moi, qui n'est pas un exercice fort où je suis fort là-dessus. Il fallait vraiment que je rééduque et que je fasse attention à ma technique. Et le fait de travailler donc moins lourd en étant un peu en phase de récupération et en travaillant très très fortement la technique, ça m'a permis de m'améliorer techniquement. Et quand j'ai commencé à récupérer vraiment, bah, j'ai pu continuer à augmenter mes charges, dépasser mes charges de travail d'avant en étant juste plus performant. Et du coup, maintenant, j'ai plus mal. Enfin, j'ai plus de douleur, quoi.
Oui, voilà, parce que finalement, tu as fait les choses bien. Tu as retravaillé ta technique pour ne pas revenir à une autre blessure plus tard. Et finalement, l'efficacité de ta technique a fait aussi que tu es capable aujourd'hui de soulever bien plus lourd que ce que tu faisais avant.
Exactement.
Donc finalement, bon, ça pourrait être encore un sujet d'un autre podcast, mais le gain technique, finalement, a des bénéfices insoupçonnés.
Ouais, c'est clair. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que même on peut se dire que voilà, c'est pas oui, non, je vais pas m'entraîner, je vais pas faire mon entraînement optimal, l'entraînement que je fais d'habitude. Bah justement, c'est une très très bonne opportunité pour se focaliser sur une technique d'exécution mais vraiment parfaite avec des charges vraiment modérées et du coup travailler tranquillement et en s'écoutant. Parce que les limites, du coup, la limite qu'on aura quand on sera blessé, ça va être la douleur. Et la douleur, elle peut être ressenti différemment et là du coup ça va être un énorme travail de ressentir la douleur et de comprendre que dire est-ce qu'on va trop loin, est-ce qu'on va pas assez loin, est-ce qu'on est en train de récupérer, est-ce qu'on n'est pas en train d'aggraver la chose. Du coup c'est vrai que là ça c'est intéressant et la technique elle va être forcément mais redoutable.
Ah mais complètement, de toute façon la douleur déjà c'est quelque chose de subjectif, deux personnes ne ressentiront pas la même douleur de la même manière.
Ouais complètement ouais.
Donc forcément là-dessus, il y a une variabilité interindividuelle qui est grande. Ouais. Et de toute façon,
le temps de récupération d'ailleurs.
Exactement. Il faudra quand même, non pas essayer de quantifier la douleur, parce que c'est pas une donnée mathématique, c'est pas une grandeur physique, mais essayer d'avoir de l'évaluer, mine de rien.
Ouais.
Et de voir tout simplement si est-ce que la douleur nous est suffisamment faible pour nous permettre de mobiliser la zone traumatisée, ou est-ce qu'elle est trop grande et que c'est pas une bonne idée, ou est-ce qu'on a dépassé le seuil et que c'est trop tard.
Ouais, bien sûr. Ouais, c'est un truc à faire vraiment attention. Et au-delà de ça, ça fait partie aussi d'un processus de récupération. Je parle du repos et notamment du sommeil. Je vais quand même faire un petit peu une aparté là-dessus, même si on a dit tout à l'heure, ça serait aussi un autre podcast, un autre sujet complètement sur le sommeil. Mais évidemment, le fait de la récupération active, c'est le moment de s'entraîner sur le muscle en question ou la douleur qu'on a eue, etc. Mais vraiment en adaptant son entraînement, en faisant attention avec les techniques qu'on a énumérées tout à l'heure. Mais c'est aussi évidemment une grosse phase de récupération, notamment qui va passer par le sommeil. Si évidemment on est en train de récupérer, mais on dit oui, on a récupéré activement, mais je me repose pas, mais bon, j'ai fait quand même la récupération active, normalement ça devrait aller. Eh ben non, évidemment, ça marche de pair. Ça marche avec le sommeil, ça marche avec la récupération, avec la bonne nutrition. Et évidemment, voilà. Là, c'est vraiment, on va vraiment sur un cas précis de la récupération active parce qu'on en a parlé sur le live de la semaine dernière, tout simplement.
Voilà. Et justement, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Tu viens de parler aussi de la gestion de la nutrition dans cette phase.
Ouais.
Elle est capitale dans le sens où quand on a un traumatisme, par exemple, sur les tissus conjonctifs, ce qui est très fréquemment le cas, tout ce qui est entorse, élongation et ainsi de suite,
ouais,
c'est
tendinite
ça.
Et tout ça, ouais.
Exactement. Et finalement, on va peut-être mettre un focus plus important sur, par exemple, les apports en collagène.
Ouais, effectivement, ouais, c'est une
bonne idée. Qui sont extrêmement importants pour justement ces tissus conjonctifs. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y aura peut-être des adaptations de nutrition à faire qui porteront leurs fruits ou non si on les fait pas par la suite.
Ouais, exactement, exactement. Après, quand on dit tout ça, évidemment, on ne dit pas qu'il faut faire que ça. Il y a évidemment des choses qui vont rentrer en compte. Quand on est blessé, on va passer peut-être voir le médecin. Le médecin va nous prescrire certaines choses, nous dire de faire de sport ou pas vraiment, ou vraiment totalement arrêter. Moi, je pense qu'il ne faut pas négliger totalement l'avis médical. Par contre, il est quand même à prendre en compte. C'est-à-dire que des fois, le médecin va nous dire non, il ne faut pas faire de sport pendant, comme on a dit des fois, 4 mois par exemple. Ou là, je vais très loin, c'est peut-être des grosses blessures, mais peut-être pendant 2 semaines, ne pas faire de sport du tout et devenir sédentaire, entre guillemets.
Ouais.
Et je sais pas toi, mais moi, je le prendrais vraiment des deux façons. Je le prendrais en compte de me dire, ok, s'il m'a dit ça, ça veut dire qu'il faut que je fasse vraiment attention. Par contre, derrière, je me verrais pas ne pas faire de sport parce que la récupération active, elle y est, elle est prouvée scientifiquement, tout simplement, en plus.
Oui, alors après, enfin, moi, je distingue deux cas. Je distingue le cas de quelqu'un qui va être averti sur ce sujet et qui va éventuellement pouvoir le proposer à son médecin.
Ouais. Oui.
Et enfin, moi, c'est ce que j'ai fait lors de ma blessure parce que j'ai passé radio et compagnie. Et du coup, quand j'ai eu l'entretien avec le médecin après ces examens-là, je lui ai proposé tout simplement de. Je lui ai demandé tout bêtement si je pouvais continuer d'aller à la salle pour faire le haut du corps sans lui parler de récupération active proprement dite. Mais...
Ouais.
Et voilà, pour lui, ça lui posait pas de problème, donc parfait, j'y suis allé, impeccable. Par contre, quelqu'un qui n'est pas averti sur la question, est-ce qu'il aura... pas, c'est pas l'intelligence de demander, parce que c'est pas, on n'est pas bête parce qu'on connaît pas ça, mais la présence d'esprit, on va dire, voilà, de poser cette question, d'aborder ce sujet-là, ou est-ce qu'il va tout simplement, bêtement, écouter son médecin, bah, le médecin il m'a dit de pas bouger, donc pendant 3 semaines, je fais rien.
Oui, voilà, c'est ça. Après, le problème, c'est ça, c'est quand on dit s'entraîner intelligemment, ça fait un peu partie de tout ça. C'est des connaissances qu'on va acquérir au fur et à mesure avec le temps. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'il y a des coachs, c'est pour ça que les gens ne sont pas lâchés dans la nature. Mais c'est vrai que il faut plutôt, sur quelqu'un de débutant, il aura peut-être plus tendance à se blesser, même en retournant, déjà en étant totalement safe, sans blessure, etc. Si on le lâche de base dans la nature, dans une salle, il peut totalement faire n'importe quoi et se blesser. Donc s'il est blessé, évidemment, ça sera encore pire. Donc vraiment, il faut prendre en compte tout ce qu'on raconte. On est au courant de ça. C'est juste que, voilà, il faut le prendre en compte la vie médicale, mais il faut savoir que quand on est un petit peu connaisseur en fait de tout ça, ça va être intéressant d'appliquer un petit peu cette notion de récupération active, mais même notamment de récupération active dans la vie de tous les jours. Et là, on n'a pas besoin d'avoir de diplôme ou de se faire coacher, simplement pour marcher, comme tu as dit tout à l'heure.
Oui, voilà, ça faisait partie de la récupération active. Pour rester dans ce qu'on disait, la vie médicale est toujours à prendre en considération, on ne peut pas le négliger complètement.
Bien sûr.
Parce que oui. Le mec qui a fait 8 ou 10 ans d'études, il dit pas forcément n'importe quoi. Par contre, il y a quelques petites adaptations, quelques petites choses qu'on peut rajouter pour se permettre de récupérer, de se soigner un petit peu plus rapidement.
Exactement. De faire fonctionner la machine, tout simplement.
Exactement.
Bah d'ailleurs, pour conclure là-dessus et pour justement finir ce podcast en beauté par rapport en plus qu'on vient de dire au niveau de la marche, etc., il y a une étude assez récente qui date de 2014 de Daniel Kawait et Talini. Et en fait, elle montre qu'en gros, que les personnes qui souffrent d'arthrose du genou, en fait, plus elles marchent, moins elles ont de symptômes. Donc, c'est exactement ce qu'on vient de dire, en fait, tout simplement.
Donc, finalement, parce qu'ils relancent leur machine à eux aussi.
Exactement, c'est ça. Du coup, je vous mettrai l'étude, le lien de l'étude dans le descriptif du podcast. En tout cas, écoute, merci Marius, merci d'avoir participé à ce podcast.
Merci à toi.
Il n'y a pas de problème, je pense qu'on va se retrouver sur soit ton podcast, soit le mien. Vous pouvez retrouver Marius sur Instagram, marius.coaching, il me semble, c'est bien ça ?
Marius BZH Coaching.
BZH Coaching, pardon. Donc voilà, merci Marius, à plus.
Salut Seb.
Et merci à tous, à bientôt. Ciao.